oublié le repos. Ils ont oublié de vivre dans le repos de Dieu. Il faut savoir combattre, il y a des temps pour ça, et puis il y a des temps pour se reposer. Jésus a fait un miracle, il a multiplié les pains et les poissons, et puis ensuite, eh bien, il est monté sur la montagne pour se trouver avec son Père. Et là, il s'est reposé. C'était la connaissance du Père. Il n'est pas resté au milieu de la foule pour accepter toutes les louanges de la foule. Non, il les a laissées, il est monté sur la montagne pour être avec son Père. Il vous manque quelque chose? Il vous manque un verset, quelque chose?
Le point que tu donnes par rapport au repos, c'est quelle référence dans Genèse?
Genèse 2, verset 1 à 3.
D'accord, merci.
Voilà, hein. C'est le septième jour. Dieu s'est reposé le septième jour. Donc la clé du repos. Vous savez, on a quatre fois le mot œuvre au singulier dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Mais sinon, le mot œuvre, il est au pluriel, souvent. Éphésiens 2, 10, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Avant de comprendre, et ça c'est important, dans Éphésiens 2, 10, quand vous lisez ce verset, on le prend souvent pour nous, personnellement. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. C'est vrai. Mais il faut réaliser que ce verset, il est aussi pour l'Église. Dans chaque Église locale, Dieu a préparé des œuvres pour cette Église locale. Et tout dépend de l'appel qui est donné à cette assemblée. Il y en a, ça va être plus la formation de disciples, il y en a, ça va être plus un travail social, il y en a d'autres, ça va être en rapport avec les démunis, enfin dans le travail social, il y a beaucoup de choses, hein, il y en a d'autres, ça va être la préparation de ministères, d'autres, ça va être la mission. Vous voyez, il y a toujours un travail spécifique pour une assemblée locale. Et là, il faut demander au Seigneur. Seigneur, quel est le côté spécifique pour notre assemblée? Une église doit grandir selon les principes divins, mais elle a une spécificité par rapport à une autre assemblée. Et il faut le chercher, le connaître, c'est important. Vous voyez bien que l'église de Samarie, c'est l'évangélisation, c'est pas le même principe que l'église de Jérusalem ou que l'église d'Antioche, par exemple. Alors, je dis ça parce que tout simplement, il y a des œuvres préparées d'avance. Puis un jour, Dieu va dire maintenant, on va regarder l'œuvre au singulier. Et l'œuvre au singulier, c'est l'ensemble des œuvres. Et là, Dieu va voir comment on a travaillé dans l'Église. Avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. On peut arriver au même résultat, avec du bois, du foin et du chaume. C'est comme ça que vous avez des assemblées, ils sont des milliers. Mais est-ce que c'est construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Parfois oui, parfois non. Je connais une assemblée, ils sont plusieurs milliers, mais ils sont tombés dans la franc-maçonnerie. Alors comment on fait? C'est terrible, c'est terrible. Oui, donc... il y a l'or, l'argent, les pierres précieuses. L'or, c'est la nature divine. L'argent, c'est le rachat. Les pierres précieuses, ce sont les dons spirituels. Donc, une fois que l'œuvre est faite, il faut vivre dans le repos jusqu'à ce que Dieu nous conduise à faire une prochaine œuvre. Il y aura plusieurs œuvres, mais ça va être... ça ne peut pas se faire en dehors du repos. Sinon, ça se fera mal. Sinon, il y aura du stress, comme je disais tout à l'heure. Il y aura de la précipitation. L'œuvre va se faire à moitié. Ou ça ne va pas bien se faire. Il faut bien comprendre cette clé du repos. Neuvième clé, Genèse 2, la deuxième partie du verset 7. Il souffla dans ses narines un souffle. Pourquoi j'ai dit, oui, de. 7b. Oui, parce que ce qui est entre, c'est pas nécessaire d'en parler. Hein. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden est une image de notre cœur. Le cœur, c'est l'être intérieur. L'être intérieur, c'est l'esprit plus l'âme. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Vous avez remarqué, ils n'étaient pas précieux pour ouvrir l'intelligence, hein, mais ils étaient agréables à voir et bons à manger. Il y avait quand même deux qualités sur trois, là. Hein. Alors, ces arbres, eh bien, ça représente les hommes. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, là, c'est en rapport avec l'esprit, c'est Christ. C'est Christ, bien sûr, l'arbre de la vie, c'est Christ, et c'est lui qui vient habiter dans notre esprit. Jean chapitre 14, ça nous parle de la grâce. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui, il est en rapport avec notre âme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la conscience. La conscience, c'est dans l'âme, mais c'est aussi en rapport avec la Bible, avec le Saint-Esprit, par rapport à la loi. D'accord ? Il y a la loi et la grâce. La grâce, c'est l'arbre de vie. La loi, c'est la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Les voilà les quatre volontés divines. La volonté créatrice, la volonté morale, la volonté spécifique et la volonté ultime. Là, on voit aussi ce fleuve qui se divisait en quatre bras. Vous parle des quatre... des quatre sources de vie du livre des Proverbes. Une source, hein, fleuve, ça va ensemble. Et c'est seulement dans le livre des Proverbes que vous trouvez cette expression. Et elle y est quatre fois. Je vous ai prêché là-dessus, je crois, déjà, non ? Non, jamais ? Ah, bon. Quatre, il y en a quatre. Il y a l'enseignement du sage, qui est une source de vie. Mais on reviendra alors là-dessus si je ne voulais pas prêcher. Il y a la crainte de Dieu qui est une source de vie. Il y a la sagesse. Et puis enfin, la bouche du sage. La quatrième découle des trois premières. Je n'ai pas prêché là-dessus.
Non, tu l'as prêché à la conférence en Alsace.
Ah, très bien. Ben, un jour à Toulon.
C'est pour ça que ça...
Voilà. Vous voyez, vous avez ces quatre sources. Et elles viennent de ce fleuve qui lui-même vient du trône de Dieu, hein, ce fleuve. Vous le voyez venir du trône de Dieu à la fin du livre d'Ézéchiel. Alors bon, je passe les noms des fleuves, j'arrive au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Vous connaissez ces versets, vous vous rappelez ce que ça veut dire, hein ? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Celui-ci, il est très beau, ce passage. Pourquoi ? Parce que c'est la clé du cœur. Et oui, le jardin d'Éden, c'est le cœur. Le cœur, c'est le centre vital de notre être. C'est le centre vital de notre être. C'est le centre de notre personnalité. Notre caractère, notre tempérament, si vous voulez, il est dans le cœur. C'est ce qui fait de nous la personne que nous sommes. Et la personne qu'on était avant, c'était seulement l'âme. Le cœur, j'ai dit, c'est l'esprit plus l'âme. L'esprit ne fonctionnait pas. Donc le cœur, il était limité avant, c'était juste l'âme. Maintenant, c'est l'esprit, puisqu'il y a le Saint-Esprit qui est dedans, plus l'âme qui se sanctifie, qui grandit dans la sanctification. Alors c'est sûr, c'est quelque chose de merveilleux. La clé du cœur, l'esprit plus l'âme. Et qu'est-ce qu'il faut faire, le cœur ? Eh bien, il faut le cultiver, il faut le garder. Et le cultiver. J'aime beaucoup ces mots. Je reprends le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. voyez le mot ici, le plaça, je suis pratiquement sûr, mais vous pourrez vérifier. Le plaça, ça veut dire lui donna du repos. Alors, ça nous parle de la clé précédente. Hein. Le plaça. Alors vous allez me dire, mais comment on peut se reposer? Ben oui, là c'est le cœur qui se repose, c'est Adam et Ève qui se reposent dans le jardin d'Éden, c'est clair. Et n'oubliez pas, Jérémie 6, 16, placez-vous sur les chemins, demandez quels sont les anciens sentiers, marchez dans ces anciens sentiers et vous trouverez du repos. Donc on voit que le fait de marcher dans le plan de Dieu, ça procure du repos, ça nous repose. Et pourquoi ils devaient le placer, pourquoi ils ont été placés dans ce jardin? Ben pour le cultiver et pour le garder. Il faut cultiver notre jardin et il faut le garder. Et cultiver, c'est bien sûr, faut enlever d'abord toutes les mauvaises herbes, tout ce qui n'est pas bon. Puis après, comme tout jardinier, il faut cultiver. Pour que ça produise du fruit, notre cœur doit produire du fruit. Et c'est bien qu'il en produise, mais ensuite, ça doit durer dans le temps, il faut garder. Et c'est intéressant parce que le mot cultiver, il veut dire travailler pour un autre, dans l'original. Tu cultives pour Dieu. Vous voyez ? Alors, vous voyez, la clé du cœur, elle est très importante. Trop de chrétiens, et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans les assemblées, c'est que les gens font pas attention à leur cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Ils font pas assez attention à leur cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Si on fait pas attention à son cœur, commence à avoir des difficultés dans l'âme. Et notre âme, elle commence à se poser des questions, à aller à droite, à gauche. Et alors là, tout de suite, eh bien, si on n'a pas la bonne attitude de tout de suite stopper notre âme, pourquoi t'as battu mon âme ? Hein ? Si on n'arrête pas tout de suite l'âme, que l'esprit ne prend pas le dessus sur l'âme. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben tout de suite, on prend le téléphone. Et voilà. Et on commence à appeler un des dirigeants de l'Église, puis un autre. Et puis à un moment donné, les dirigeants de l'Église sont débordés. Parce qu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui ont des difficultés dans leur âme. Alors il faut beaucoup parler de cette situation, de ces questions. Souvent, il y a des problèmes de cœur. Je ne parle pas seulement des problèmes sentimentaux, vous l'avez compris, hein. Je parle du cœur en général. Et souvent, il y a un manque de maturité et c'est parce que cette clé n'est pas pleinement vécue. À un moment donné, au niveau du cœur, on doit avoir réglé les choses et ça, si vous voulez, après, ça ne revient plus. Pourquoi ? Parce que quand la clé du cœur est en place, ben, y a la clé du règne qui arrive. Vous comprenez ? Et on ne se laisse pas faire. On combat. Des choses qui viennent, qui reviennent régulièrement, c'est pas normal. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut se mettre devant Dieu et dire maintenant, mon cœur, il peut plus être ballotté à droite, à gauche. C'est pas possible, ça. Parce que on freine le travail. Et bien sûr, l'Église. Alors c'est comme ça que vous avez beaucoup d'Églises qui ont tendance à fonctionner de manière sentimentale. La révélation manque. La vie chrétienne est dominée pas par la révélation et pas par les principes bibliques, mais par les sentiments, par les émotions. C'est l'âme, ça. Hein ? D'accord ? Donc, c'est important. Hein ? Nous continuons la dixième clé, Genèse 2, versets 5 et 6. Ça va, j'ai le temps. Genèse 2, versets 5 et 6. « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, On est d'accord ? Et dans la neuvième clé, je voulais ajouter ces versets, Genèse 2, versets 5 et 6. « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Vous voyez comme c'est intéressant ce passage ? Il n'y avait personne pour cultiver le sol. Hein. C'est là. Vous vous rappelez, le cœur, le jardin d'Éden, il fallait le cultiver et le garder. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et là, je voulais juste montrer dans ce passage ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous garde quand on ne peut pas encore le faire, quand on est encore jeune dans la foi. On a du mal à cultiver et garder encore. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? Ben Dieu, il envoie au niveau de notre cœur cette vapeur, symbole bien sûr du Saint-Esprit, qui va arroser toute la surface du sol, c'est-à-dire qui va arroser le cœur. Ça, c'est juste pour montrer dans cette clé du cœur que Dieu fait un travail tant qu'on ne peut pas le faire. D'accord ? Mais il faut se mettre au travail. À un moment donné, on doit cultiver et puis on doit garder. Si on ne le fait pas, eh bien, à un moment donné, il y aura des conséquences, malheureusement, parce que Dieu ne va pas toujours faire le travail à notre place. Alors, on arrive à la dixième clé. La dixième clé. Genèse 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « N'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Heureusement, hein. N'oubliez pas que s'il a fait venir les animaux, c'est parce qu'il voulait il voulait que l'homme ne soit pas seul et qu'il ait une aide semblable à lui. C'est ce qui est écrit au verset 18. C'est pour ça qu'il fait venir les animaux. Bon, il n'y en a aucun qui convenait. Je dis heureusement. Hein ? Vous imaginez ? Ça ne pouvait pas être la girafe, elle était trop haute. Hein ? Et ça ne peut pas être le singe non plus. Hein ? Bon. Alors, et donc il est dit, verset 21... Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Heureusement, il n'a pris qu'une côte. Hein. C'est dommage, il y a des gens, une côte, ça ne leur suffit pas, il leur faut plusieurs côtes. Et c'est pour ça qu'après, ils ont des problèmes d'estomac. Hein. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui os de mes os et chair de ma chair. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est la clé du mariage, bien sûr, et c'est la clé du travail en équipe. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure au niveau de l'unité, de la complémentarité, vous vous rappelez tout à l'heure. Mais là, on voit bien cette unité, cette complémentarité ici, le travail en équipe. Et il nous le montre déjà au travers du mariage. Ça, c'est magnifique. C'est quelque chose que l'être humain a du mal à vivre. Parce que dans sa nature, l'être humain est, je dirais, l'être humain irrégénéré, ce qui compte pour lui, c'est la pyramide. C'est être à la tête de tout. C'est l'instinct de domination. Il aime diriger, dominer tout, contrôler tout, l'instinct de contrôle. Et c'est clair que ce n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu l'avait dit, même quand on l'a lu tout à l'heure, dominer EZ. Ce n'était pas un seul des deux. Et vous voyez, on est complètement, aujourd'hui, eh bien, c'est complètement l'inverse qui se vit dans la structure de l'Église, malheureusement, dans la construction de l'Église, la clé du mariage. Elle disparaît de plus en plus. Hein. On le voit bien. Hein. Il a pris une côte de l'homme Et il en a fait une femme, il n'en a pas fait un homme. Donc il n'y a pas l'homosexualité ici. Hein ? Quelqu'un m'a, j'ai rencontré quelqu'un qui lit la Bible, je ne dirais pas qu'il est chrétien, mais qui lit la Bible, qui étudie. Il m'a dit, mais Dieu est d'accord avec l'homosexualité. Il me donne comme verset le verset de Galates. Aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme. Où on va ? N'est-ce pas ? Mais quand on prend la Genèse, c'est clair. C'est une côte. Avec une côte, il fait une femme. Il n'y a pas non plus la polygamie. Il n'y a pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui et puis ce qui va encore se développer par la suite. On ne le voit pas ici. C'est travailler en équipe, mais selon Dieu. Selon ce que Dieu a prévu. Une vraie équipe. Pas une équipe fabriquée par l'homme. Hein. Ça doit être, il doit y avoir vraiment cette unité, cette complémentarité qui ne plaît pas. Ça ne plaît pas, malheureusement, aux individus. Ça ne leur plaît pas. L'être humain aime bien avoir la gloire pour lui seul. Voyez ? Alors, à partir du moment où il y a la complémentarité, on n'est pas content s'il y a deux médailles d'or. Non, il faut que je l'aie tout seul. Il faut qu'on parle de moi. Ça va à l'encontre de la nature humaine. Et malheureusement, dans l'Église, souvent, c'est ce qui se produit. Mais je me souviens, il y a maintenant plus de 15 ans de ça, où le Seigneur disait, c'est fini le temps. C'est fini le temps des chrétiens qui vont faire quelque chose tout seul. Voyez, c'est fini le temps où on met en avant un homme comme Wesley, comme Moody, comme Finney. C'est fini. Maintenant, on arrive enfin à ce travail en équipe. Il ne va plus y avoir un grand évangéliste comme Billy Graham ou qui que ce soit. Ça va être en équipe. Ça, c'est le modèle divin. Et Dieu a été obligé de faire comme ça parce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire autrement. Il a mis un David parce que le peuple l'a demandé. Mais David avait appris aussi à travailler en équipe. Donc, il faut qu'on retrouve ce principe. Il faut qu'il se développe dans les églises, le principe du travail en équipe. Et vous voyez, ça précède le mariage de Christ avec l'épouse. Et ça, c'est bien la gloire de sa présence, quand l'épouse, la fiancée va rejoindre Christ. Bon, ça, vous comprenez, je pense, des relations. Je ne vous les ai pas montrées, mais vous les voyez hein, sur le tableau. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Onzième clé. C'est juste un verset, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je l'ai mis dans la clé du mariage, c'est évident, mais là, je la sépare, parce que là, vous avez une autre clé, là. C'est la clé des priorités. Ça aussi, c'est souvent mal vécu. J'ai un jour, très, je dirais, pas méchamment du tout, le pasteur d'une église, j'étais déjà venu faire des réunions plusieurs fois, et il m'a dit gentiment, écoute, c'est la dernière fois que tu viens. Gentiment, il me l'a dit, il ne m'a pas dit méchamment. Il m'a dit, parce que tu comprends, tu as prêché que la famille, ça passe avant l'église. Et ça, on ne peut pas accepter ça dans notre église. Les priorités sont mal vécues dans les églises. Après, on s'étonne que des enfants de chrétiens aillent mal et se détournent du chemin. Mais il y a des priorités. Je l'ai mis où, là ? Oui, les priorités. Et la parole nous montre les priorités. C'est la gloire de sa parole. Quitter son père et sa mère, là, on voit les trois priorités dans le mariage, c'est avant la chute. Malheureusement, aujourd'hui, la chute a eu lieu et vous avez des enfants, ils quittent leurs parents, ils vont louer un appartement en ville, ils vont s'attacher à quelqu'un, puis ils vont devenir une seule chair et ils ne sont pas mariés. Donc, ce verset, et j'insiste là-dessus, n'est valable pour le mariage que si le futur couple fonctionne dans le plan de Dieu. S'il est encore sous Genèse 3 et la suite, ça ne marchera pas. Et ça ne suffira pas. Hein. Là, on a les éléments qui nous sont donnés pour un mariage correct, à condition qu'on marche correctement avec le Seigneur. Sinon, ça n'ira pas. Quitter son père et sa mère. Pas abandonner. Hein. Pas délaisser. Mais quand même quitter. S'attacher, je vous rappelle que le mot s'attacher, ça veut dire se coller. Se coller. Et si un et deux sont en place, alors trois est possible. Devenir une seule chair. Mais sinon, on ne peut pas. Sinon, ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Hein. C'est une clé très importante, la clé des priorités. Dans l'Église, il y a des priorités. Et si on ne respecte pas les priorités, à un moment donné, eh bien, l'Église peut tomber dans le piège. Par exemple, le piège de l'activisme. C'est vrai aussi en rapport avec la clé du repos, ce que je vous dis là. Elle peut tomber dans d'autres pièges. Par exemple, si on ne respecte pas les priorités, ben le diable en profite. Il en profite et il va mettre certaines choses en place. On prend plus de temps qu'il ne faut pour certaines choses. Et puis finalement, on en parlait un peu ce matin, vous savez, en réunion de dirigeants, on peut passer des heures à discuter des problèmes, on a oublié de louer Dieu. On a oublié de prier. On a oublié de mettre Dieu à la première place. On s'occupe des problèmes des chrétiens de l'Église alors qu'il faut s'occuper d'abord du Seigneur. Ce ne sont pas les bonnes priorités. Et après, on est étonné que ben, les problèmes ne se règlent pas. Ça ne marche pas comme il faut. Les priorités, c'est important. Si on ne respecte pas les priorités, regardez-le déjà dans votre vie. Une journée, c'est court. Une journée. Et quand le psaume 90 nous dit d'apprendre à bien compter nos jours, ben, dans une journée, si on passe une heure de plus pour discuter avec un collègue du travail ou avec un chrétien, alors qu'il ne faudrait pas, eh ben, c'est une heure qui nous manque. Et puis, si on ne s'est pas réveillé le matin et qu'on a dû aller vite au travail, et on compte sur l'heure, sur cette heure-là le soir en rentrant pour lire sa Bible ou pour prier, hop, on n'a plus l'heure. Et on est coincé. C'est là qu'on voit l'importance des priorités. On peut multiplier les exemples. Hein. Et on arrive à la 12e clé, la dernière. Genèse 2, 25, jusqu'au chapitre 3, verset 6a. 2, 25... jusqu'au chapitre 3, verset 6a. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous savez que là, elle a ajouté quelque chose. De peur que vous ne mouriez, vous savez que là, elle a enlevé quelque chose. Dieu avait dit, vous mourrez certainement. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, à manger agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Attention, elle n'a pas encore péché là. Jusqu'à ce verset, la première partie du verset 6, il n'y a pas encore le péché. Donc, ça entre dans les perfections avant la chute. Hein ? Restauration avant la chute, vous vous rappelez. Et là, eh bien, cette clé, c'est la clé de la connaissance exacte, de la connaissance précise, je dirais, par rapport à l'ordre divin. C'est avoir une connaissance précise, là. Et quand on a cette connaissance, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. N'oubliez pas que c'est, on le voit dès le début de la Genèse ici, la femme ajoute et retranche, le mari, eh ben, il tombe dans le même piège, il réfléchit même pas. Combien le mari, il a cru à ce que lui disait Ève, il a même pas, dit à Ève, attention, non, Dieu a pas dit ça, c'est pas tout à fait ça. Il est tombé dans le piège, lui aussi. Mais voyez, une connaissance exacte et précise. On n'ajoute rien, on retranche rien. C'est au début de la Genèse, c'est aussi dans Apocalypse 22. C'est aussi à la fin de la Bible. Dans toute la Bible, l'importance d'ouvrir la parole, d'examiner les Écritures, est-ce qu'on a bien compris, est-ce que c'est vraiment ça qui est écrit ? Une connaissance exacte. C'est en rapport avec la connaissance du Fils. Pourquoi ? Parce que la connaissance du Fils est en rapport avec la fidélité à la vision. Jésus a parfaitement été fidèle à tout ce que disait et faisait son Père. Il était toujours en contact avec lui. Il n'a jamais fait sa propre volonté. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, Jésus est entré dans le jardin de Gethsémané avec deux volontés, la sienne et celle de son Père. Il est ressorti du jardin avec une volonté, celle de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Trois fois, il va dire cela. Donc, vous voyez, là, vous avez ces 12 clés de perfection qui sont en rapport avec les 12 relations de base. Et ça, c'est avant la chute. Donc, ça va bien, c'est bien en rapport avec le mot « restauration » qu'on a vu tout au début. Et il faut que ces 12 clés soient restaurées dans la construction de l'Église. L'Église a besoin de ces 12 clés pour fonctionner et pour être édifiée correctement. Est-ce que vous avez quelques questions ? Je ne vais pas commencer le point suivant, parce que ce serait dommage, je le ferai demain matin.